En ce premier lundi de 2025, nous sommes encore en phase de transition géopolitique. Nous allons donc revenir cette semaine sur les déclarations de Benjamin Netanyahou selon lesquelles la guerre menée par Israël changerait profondément le Moyen-Orient. Que veut-il dire par là? Est-ce le cas? Réponse de Daniel Haber au micro de Blaise van der Linden.
Daniel Haber, bonjour.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous en ce lundi matin pour nos traditionnelles conversations du lundi à 7h15. Alors Daniel, en ce premier lundi de l'année 2025, on est encore en phase de transition géopolitique. On va donc réfléchir sur cette année 2025, mais aussi sur ce qu'il s'est passé depuis maintenant un peu moins de 2 ans. Benjamin Netanyahou l'a déclaré en 2024 à maintes reprises. Ce qu'il s'est passé, c'est une transformation, ou en tout cas l'objectif, c'est une transformation du Moyen-Orient. Que voulait-il dire par là?
Non, je ne sais pas si c'était l'objectif, c'était en tout cas le résultat de cette année 2024 qui a vu Israël passer du pire, c'est-à-dire le drame du 7 octobre, le tsunami de haine anti-juive et anti-israélienne en particulier, qui a envahi le monde entier. Et qui s'est redressé autour du 1er avril avec des exploits de l'armée israélienne qui ont permis de détruire tous les alliés de l'Iran, enfin de les détruire en grande partie, et surtout de mettre à nu l'Iran lui-même. Donc ce fantastique retournement a évidemment donné un peu des ailes à Israël, qui à juste titre d'ailleurs peut estimer avoir remporté une victoire assez extraordinaire. Et donc pour Netanyahou, ça veut dire aussi remodeler cette carte du Moyen-Orient. Alors pour comprendre ce qu'il a voulu dire, il faut regarder la carte du Moyen-Orient juste avant le 7 octobre. Vous aviez quand même dominant le paysage l'Iran. L'Iran comme agresseur ou comme leader de l'anti-occidental, le grand Satan américain, le petit Satan israélien, et qui avait patiemment, au cours de près de 50 ans maintenant d'existence, cette république islamique, bâti cet axe de la malédiction dont a parlé Bibi à plusieurs reprises, et notamment à l'ONU, où on voit au-dessus d'Israël 4 États soudés, Iran, Irak, Syrie, Liban, formant une espèce de masse au-dessus d'Israël et menaçant Israël à tout moment. Alors ça a éclaté le 7 octobre, mais ça aurait pu éclater avant, comme ça aurait pu éclater plus tard. L'histoire dira si le 7 octobre c'était le bon moment pour l'Iran de déclarer la guerre à Israël et à l'Occident. En tout cas, ils l'ont choisi et ils l'ont perdu. Mais cet axe donc était extrêmement puissant. Il était appuyé par les outils tout à fait au sud, et entre les deux, il y avait, on le percevait pas suffisamment, le mouvement palestinien divisé en deux, avec le Gaza d'un côté, la Judée-Samarie de l'autre, et qui était passé progressivement dans les mains des Iraniens. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et les Iraniens ayant évidemment poussé les éléments les plus radicaux en avant, le Hamas à Gaza, mais en Judée-Samarie, ayant mis en place des milices pro-iranienne, le Hamas lui-même, le djihad islamique et bien d'autres, qui étaient plutôt réfugiés justement dans les camps de réfugiés où n'allait pas l'autorité palestinienne, et c'était Israël qui devait faire ce sale boulot de la police et de l'armée pour entrer dans les camps et réduire tout ça. Et ça se passait même avant le 7 octobre, et ça s'est amplifié après. Donc vous aviez ce vaste mouvement, et en face, vous n'aviez pas grand-chose. Il y avait un mouvement lancé par les accords d'Abraham, c'est assez récent, une espèce de mouvement anti-chiite avec les pays du Golfe. Mais il fallait encore que l'Égypte et la Jordanie se joignent à ce mouvement. Or, on voit que les Égyptiens et les Jordaniens ont constamment joué un double jeu, notamment l'Égypte, avec la porosité de l'axe de Philadelphie. Et puis, il y avait la grande question de l'Arabie Saoudite. Tant que l'Arabie Saoudite qui est le leader du monde arabe sunnite, n'est pas dans les accords d'Abraham, on ne peut pas dire qu'on a un axe puissant face à l'axe chiite dominant. Et puis vous aviez un troisième larron, la Turquie, qui jouait un jeu que personne n'a vraiment réussi à bien comprendre, qui est à la fois dans l'OTAN, proche des Américains, mais qui avait une rhétorique graduellement de plus en plus forte anti-israélienne et qui surtout était préoccupé par en Syrie l'existence d'une espèce de Kurdistan syriaque naissant qui s'ajoutant à ce Kurdistan en Irak faisait que la question kurde risquait d'arriver. Or, la question kurde, c'est le problème majeur pour la Turquie parce qu'une grande partie de la Turquie sont habitées par des Kurdes. Donc c'est un problème quasiment vital. Donc c'était une situation de domination de l'Iran.
Alors aujourd'hui, 6 janvier 2025, que peut-on dire du paysage qui se dessine depuis le 7 octobre 2023?
Oui, donc il a raison de dire, le Premier ministre, que tout a changé, puisqu'il n'y a plus d'axe de la malédiction, il s'est écroulé, le Hezbollah n'est plus opérationnel, la Syrie est tombée, elle est passée des chiites aux mains des sunnites, des sunnites de tendance frères musulmans, c'est-à-dire proches de la Turquie, mais des sunnites quand même. Et l'Iran lui-même, on l'a vu, est très affaibli, il est mis à nu, il a des difficultés économiques. Donc c'est vrai que cet axe de la médiation a disparu, mais pour autant, on voit que l'Arabie Saoudite, si elle est prête à reprendre des conversations avec Israël et avec les Américains, va mettre la barre assez haut. Donc ça va être assez difficile de leur accorder tout ce qu'ils veulent. Mais le plus important dans tout ça, et c'est ce qui explique la position du Premier ministre, c'est Israël a retrouvé toute sa crédibilité militaire. C'est ça qu'il voulait dire. Et puis c'est vrai aussi que la question palestinienne, elle est toujours en l'air. Elle est repassée d'ailleurs non plus au premier plan comme elle l'a été pendant les 6 premiers mois de la guerre. Elle est passée à un second plan. On ne sait plus très bien où ils en sont. En tout cas, les Iraniens ne peuvent plus prétendre les contrôler, mais personne ne les contrôle. Personne n'arrive à savoir comment on peut mettre en place un mouvement palestinien qui peut entamer des négociations sérieuses. Et pendant ce temps-là, les grandes puissances, comme les Russes et les Chinois, on les a vus, ont été un peu dépassées par les événements et se sont tues. Donc ça donne l'impression, évidemment, que Trump, quand il va arriver, va trouver un paysage peut-être simplifié.
Justement, Donald Trump, il prêtera serment le 20 janvier, dans 2 semaines tout pile, hein, dans 14 jours. Va-t-il avoir une action plus facile dans ce Moyen-Orient, transformé? On sait qu'il ne veut pas forcément avoir de guerre sous les bras.
Oui, non, mais il va négocier très vite avec l'Iran, mais l'Iran a toujours été un négociateur difficile et il sera à nouveau très difficile. Et le fait qu'il soit très affaibli veut pas dire qu'il soit prêt à céder. Au contraire, il va se raccrocher à ce qui lui reste et ce qui lui reste, c'est son programme nucléaire. Et donc tout va tourner à nouveau comme en 2015 au moment du premier accord. Sur quel type d'accord peut-on tourner? Et c'est là qu'Israël a beaucoup de soucis parce que le risque, c'est que un accord puisse laisser l'Iran rester un pays du seuil nucléaire, ne pas démanteler le programme nucléaire iranien, le laisser tel qu'il est, et ce qui laisserait, disons, en surplomb la menace sur Israël. Ça, c'est la première difficulté pour Israël. La deuxième, c'est que l'Arabie Saoudite certainement va être prête à reprendre des discussions avec Trump, mais elle va mettre la barre assez haut, va avoir beaucoup d'exigences vis-à-vis des Américains. Ils vont demander beaucoup de garanties, la livraison d'armes sophistiquées, peut-être même la livraison d'une centrale nucléaire dite pacifique, etc. Or, Trump, on voit qu'il n'est pas prêt à leur donner tout ça, moins encore que Biden. Donc, ça va être très difficile à négocier, d'autant que l'Arabie Saoudite est prête à prendre en main la question palestinienne, mais c'est plus vite dit que fait. Donc, voilà. Et puis, vous avez une Turquie qui va rester hantée par cette question kurde et qui va être un partenaire difficile. Et le dernier élément, quand même, c'est celui qui me préoccupe le plus, c'est la Chine. parce que la Chine ne peut pas laisser vaincre deux de ses puissants alliés dans la région, qui sont l'Iran et la Russie. Et on sait que Trump va engager également des négociations avec la Russie en parallèle. Et donc, il est difficile pour la Chine, si elle ne veut pas tout perdre, de laisser tomber ces deux, alors je ne sais pas si on peut les appeler des alliés, mais en tout cas les deux partenaires. D'autant plus que Trump a promis de s'en prendre à la Chine sur un plan commercial. Donc c'est ça qui va être difficile pour Trump. Est-ce qu'on peut toujours séparer l'économie de la politique? Trump peut-il dire à la Chine, je vais mener une guerre commerciale très dure vis-à-vis de vous, mais je suis prêt à faire des accords géopolitiques, alors que ces agressions commerciales contre la Chine sont vécues par la Chine comme des agressions géopolitiques. Voilà, c'est un petit peu autour de ça que ça va tourner. Et donc, l'Iran va avoir en main quelques cartes, dont la Chine, dont il va jouer. Donc je ne suis pas du tout sûr que la négociation va pouvoir aller vite. C'est surtout ça qui est préoccupant. Et on voit que tous ces alliés de l'Iran que Israël a vaincu respirent encore, ont encore quelques roquettes cachées, des missiles par-ci, etc. On voit avec les Houthis, il y a encore des alertes pratiquement toutes les nuits en Israël. Donc il y a ce pourrissement de la situation. Que les supplétifs de l'Iran peuvent encore faire durer, faire souffrir Israël. Et c'est ça la préoccupation pour le gouvernement israélien, comment revenir à une vraie paix et revenir à la prospérité. Et voilà, c'est cette grande inconnue qui va nous hanter pendant toute l'année 2025, je le crains.
Oui, et cela nous augure de nombreuses conversations tout au long de cette année 2025. Daniel Haber, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et on se retrouve lundi prochain.
Et à la semaine prochaine, au revoir.